Bonjour à toutes et à tous. Nous continuons ce matin notre série sur le roi David. Et comme ça nous a été indiqué la semaine dernière, lorsqu'on étudie la vie du roi David et en fait n'importe quelle vie ou n'importe quelle histoire en particulier qu'on peut trouver dans l'Ancien Testament, on n'est pas exactement en train de lire juste des petites histoires comme on a pu les entendre dans notre enfance, non pas que aux ateliers bibliques, les enfants n'entendent que des petites histoires, mais parfois on se souvient juste d'histoires, avec des personnages, avec des événements, et puis ça nous marque plus ou moins. Mais en fait, lorsque nous étudions des histoires comme celle de la vie du roi David, on est en train d'étudier notre histoire. Derrière toutes ces histoires, celle d'Abraham, de tous les patriarches, de l'exil, de la sortie d'Égypte, tous ces événements en fait forment une grande histoire, et cette grande histoire est notre histoire. En tant que chrétiens, nous faisons partie de ce peuple qui partage la même histoire avec Abraham, avec les patriarches, avec Israël, avec ce roi David. Et donc, individuellement ou collectivement, nous avons besoin de nous situer dans cette histoire. Nous avons besoin de pouvoir percevoir notre propre histoire individuellement et collectivement au travers de ce que Dieu fait depuis des millénaires. C'est un point sur lequel les historiens, les psychologues, les sociologues, les politologues sont d'accord, c'est que pour pouvoir comprendre son présent, pour pouvoir se projeter vers l'avenir, chacun a besoin de comprendre d'où il vient et quel est son parcours. On nous répète régulièrement dans l'actualité que pour bien comprendre notre actualité, nous avons besoin de comprendre l'histoire de France, la géopolitique, l'histoire du monde, l'histoire des pensées. Les psychologues ou d'autres médecins nous rappellent que si nous voulons pouvoir comprendre notre situation, nos problèmes, nous avons besoin de savoir d'où nous venons, quel est notre historique, quel est le parcours de notre famille, etc. Il y a cette compréhension générale que pour bien saisir son présent, pour bien se diriger vers la suite, il y a besoin de savoir d'où on vient et quelle est notre trajectoire. Et la Bible nous présente exactement ça pour nous. Si nous nous reconnaissons comme chrétiens, elle nous présente notre histoire et elle nous permet de savoir nous situer, savoir d'où nous venons et dans quelle direction nous allons, quel est notre point de départ, quel est notre point d'arrivée. Et être fidèle à Dieu dans ce sens-là, c'est en fait écrire son présent au regard de ces points de départ et de ce point d'arrivée. C'est tenir compte de tous les échecs et toutes les réussites du passé et de savoir où est-ce que Dieu veut nous amener pour pouvoir inscrire dès aujourd'hui notre vie dans ce grand parcours. Alors c'est vraiment ce que je vous invite à découvrir dans l'ensemble de cette série, que ce soit comme on l'a vu la dernière fois, comme on le voit ce matin, mais encore pendant plusieurs semaines et vraisemblablement plusieurs mois, on va pouvoir redécouvrir notre histoire en tant que personne, en tant que chrétien, en tant qu'Église, au travers de la vie du roi David, qui a eu un rôle essentiel dans précisément la construction de l'histoire d'Israël, et non seulement ça, mais aussi en filigrane la construction de l'histoire de l'Église avec cette annonce du roi véritable, Jésus, ce roi serviteur qu'on vient de chanter et qu'on va encore voir se dessiner dans le texte de ce matin. Au-delà de la vie du roi David, nous voyons Jésus être annoncé et nous annoncer qui nous avons comme roi en tant que peuple, en tant que peuple de Dieu. Alors ce matin, je nous invite à lire dans 1 Samuel 16, à partir du verset 14. On est juste après le texte que nous avons vu la semaine dernière, où David a été roi, il a été annoncé comme roi, de manière privée, mais du point de vue de Dieu, il a été présenté comme roi. Et on va voir qu'au-delà de certains éléments qui, peut-être de prime abord, peuvent nous paraître, disons-le, étranges dans ce texte, il y a un tournant majeur, quelque chose d'absolument significatif qui se joue dans cette scène pour la suite des événements. Alors lisons en 1 Samuel 16, à partir du verset 14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, tandis qu'un mauvais esprit envoyé par l'Éternel se mit à le tourmenter. Les serviteurs de Saül lui dirent, Voilà qu'un mauvais esprit envoyé par Dieu te tourmente. Il te suffit, notre Seigneur, de dire un mot et tes serviteurs ici présents te chercheront quelqu'un qui sache jouer de la lyre. Quand le mauvais esprit de Dieu t'assaillera, le musicien jouera de son instrument et cela te soulagera. » Saül répondit, « D'accord, cherchez-moi un bon musicien et amenez-le-moi. » Un des serviteurs dit alors, « J'ai justement remarqué un fils d'Isaïe de Bethléem qui sait jouer de la lyre. C'est aussi un brave guerrier. De plus, il s'exprime bien et il a belle apparence et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya alors des messagers à Isaïe avec cet ordre, « Envoie-moi ton fils David, celui qui garde les moutons. » Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ses présents à Saül par son fils David. Quand celui-ci arriva chez Saül, il entra à son service. Saül le prit en affection et lui confia le soin de porter ses armes. Il envoya dire à Isaïe, « J'apprécie beaucoup David, qu'il reste donc à mon service. » Dès lors, chaque fois que le mauvais esprit venu de Dieu assaillait Saül, David prenait sa lyre et en jouait. Alors Saül se calmait et se sentait mieux, et le mauvais esprit le quittait. Jusqu'ici notre lecture. Ce texte marque un tournant tout à fait significatif dans l'histoire d'Israël. Dans les chapitres précédents, Saül, qui avait été nommé roi, fait deux erreurs majeures qui l'amènent à être jugé par Dieu par l'intermédiaire de Samuel. Au chapitre 13, Saül n'attend pas Samuel et offre un holocauste, alors que ce n'était pas sa prérogative en tant que roi, avant de partir au combat. Et Samuel en est informé, il vient et il annonce ce jugement à Saül. Et c'est ce qu'on lit au chapitre 13, 1 Samuel 13, verset 14. « Mais puisque tu as désobéi aux ordres de l'Éternel, ta royauté ne subsistera pas. L'Éternel a décidé de te chercher un homme qui corresponde à ses désirs et de l'établir chef de son peuple. » Et de nouveau, au chapitre 15, Saül fait de nouveau se désobéir aux ordres de Dieu. Il refuse de, suite à une victoire, il refuse de détruire entièrement le butin et il garde la meilleure part pour lui et ses soldats. Et de nouveau, Samuel vient et vient annoncer le jugement de l'Éternel sur la royauté de Saül. Je vous lis au chapitre 15, verset 26. « Non, répliqua Samuel, je n'irai pas avec toi, car tu as rejeté les ordres de l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel te rejette aussi et te retire la royauté sur Israël. » Donc lorsque nous arrivons à ce chapitre 16 et au verset 14, ces premiers mots qui indiquent que l'Esprit de Dieu se retire de Saül, ce n'est pas quelque chose d'arbitraire, ce n'est pas quelque chose qui tombe par hasard sur Saül, c'est la conséquence de sa rébellion. Au début de son ministère de roi, on pourrait dire, au début où il lance le combat pour être le chef militaire d'Israël, au chapitre 11, il nous est dit que l'Esprit s'empare de Saül. Et c'est l'Esprit qui s'empare de Saül pour qu'il prenne son rôle de chef, son rôle de roi pour Israël. Mais parce qu'à plusieurs reprises, il a désobéi, parce qu'à plusieurs reprises, il a choisi d'être lui-même roi indépendamment de ce que Dieu lui disait, alors Dieu lui annonce que la royauté lui est retirée. Et c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, cette royauté est transmise à David par l'intermédiaire de Samuel. Donc on a un moment tout à fait particulier. Dans les faits, c'est-à-dire aux yeux du peuple, dans les institutions d'Israël, Saül est encore roi. Mais aux yeux de Dieu, dans ce qui se joue en fait en réalité, dans ce que Dieu est au contrôle de cette situation, c'est David qui est devenu roi. Et on est dans ce temps de transition où, aux yeux de tous, Saül est roi. Aux yeux des hommes, Saül est le roi. Et aux yeux de tous, David n'est qu'un berger. Et c'est ce qui est encore dit. Va chercher ton fils qui garde les moutons. Aux yeux des hommes, Saül est le roi. David n'est qu'un berger. Mais à ce moment de l'histoire, en fait, aux yeux de Dieu, la situation s'est déjà inversée. Saül n'est plus qu'une sorte d'imposteur, il n'est plus roi à cause de sa faute. Et David, au contraire, lui est devenu roi par son attachement, parce qu'il est le roi que Dieu désire. Et c'est ce décalage, ce double regard sur cette situation qui crée cette scène étonnante. La scène que nous avons lue est relativement simple. Dieu envoie un mauvais esprit pour tourmenter Saül. Les serviteurs qui sont autour de lui lui disent « Mais simplement, va chercher un musicien pour qu'il puisse t'apaiser. » Sur la base de ses conseils, Saül ordonne que David soit amené pour venir jouer pour lui pour l'apaiser. Et Saül s'attache à David, reconnaît la valeur de son service et donne l'ordre qu'il reste à son service pour apaiser ses tourments. Mais il y a quelque chose qui tout de suite frappe les yeux dans cette scène et peut-être qui vous interroge, c'est cette idée et ce qu'on lit au premier verset que Dieu envoie un mauvais esprit pour tourmenter Saül. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans cette scène? C'est quelque chose de tout à fait particulier qui peut nous interroger. Est-ce que Dieu enverrait un démon pour posséder Saül? Je crois que en lisant attentivement ce texte, en fait, on est amené à comprendre les choses d'une autre manière, à regarder dans une autre direction. Bien sûr, l'expression qu'un mauvais esprit soit envoyé par l'Éternel pour le tourmenter peut être troublante et peut nous amener à nous poser ces questions. Mais la réaction des serviteurs est tout à fait parlante. Ils ne voient pas dans les tourments de Saül quelque chose qui nécessiterait de faire venir un prêtre, de faire venir un prophète et de se débarrasser de ce démon. Mais ils comprennent que simplement si un musicien vient et apporte une musique apaisante, il pourra être soulagé de ses tourments. Et derrière cette mention de mauvais esprit, je ne crois pas qu'il y ait à avoir un démon qui posséderait Saül, mais il y a néanmoins une action de Dieu par un esprit pour tourmenter Saül, pour le troubler, pour lui enlever sa paix. Et en ça, ça reste quelque chose qui peut nous intriguer. Comment Dieu pourrait tourmenter quelqu'un? Comment Dieu pourrait enlever la paix à quelqu'un? Mais en fait, lorsqu'on y réfléchit, tout au long de la Bible, et ce n'est pas forcément l'image de Dieu qu'on aime à dépeindre naturellement, mais Dieu est un Dieu qui juge et qui a différents moyens d'apporter son jugement. Dieu n'est pas qu'un Dieu qui apporte tout ce qui nous fait plaisir et puis toutes les mauvaises choses viendraient de l'ennemi, viendraient de l'adversaire et on aurait un monde séparé comme ça. Mais Dieu est un Dieu tout-puissant, avec toute autorité, qui juge avec des jugements qui sont durs, qui apportent des choses parfois difficiles et douloureuses. C'est ce que Job confesse au début de ses souffrances, en Job 2, chapitre 10. Quoi ? Nous recevrions de Dieu le bonheur et nous ne recevrions pas aussi le malheur. Job avait bien compris que parce que Dieu est tout-puissant, alors il est aussi en position de pouvoir apporter des difficultés, apporter même des souffrances dans ses jugements. Et là, il ne faut pas trop vite mélanger le rôle de Dieu et notre rôle et juger Dieu avec nos critères que nous pourrions nous appliquer à nous-mêmes. Avec toutes les limites que peuvent avoir les parallèles qu'on peut faire avec Dieu. Mais lorsque nous pensons au rôle d'un juge ici sur Terre, et si on le compare au rôle d'un citoyen, notre regard est très différent. Si un juge décide que quelqu'un est absolument coupable et qu'il doit être envoyé en prison pendant 30 ans, il le fait de manière légitime. Si nous estimons que nous, en tant que simples citoyens, que quelqu'un a fait quelque chose de mal et que nous séquestrons cette personne pendant 30 ans dans notre cave, ce n'est pas légitime. Même si vous y réfléchissiez peut-être secrètement, ce n'est pas légitime de condamner quelqu'un et de soi-même exercer la sanction. C'est en tant que juge que le juge peut t'envoyer en prison. Et là aussi, nous ne devons pas mélanger les choses quand il s'agit de Dieu. C'est en tant que juge avec toute autorité que Dieu peut légitimement apporter ses jugements. Et notre scène est d'une certaine manière une scène de jugement. Que la forme puisse nous étonner ou pas, Saül a désobéi plusieurs fois, Dieu a annoncé son jugement et Saül est en train de vivre ce jugement à ce moment-là. Et ce à quoi nous sommes témoins lorsque nous lisons ce texte, C'est justement cette scène de jugement où, sur scène, nous voyons Dieu qui tourmente Saül et Saül qui a besoin d'aide. Et en fait, cette scène de jugement a deux aspects, parce que sur scène, nous voyons manifestement le jugement de Saül, mais en coulisses, Dieu prépare la deuxième étape de ce jugement. En coulisses, Dieu s'est retiré de Saül, il l'a abandonné, et Saül commence sa descente, il commence à descendre vers le chaos, vers le désordre, vers tout ce qu'on va voir dans les chapitres qui suivent, il est en train de commencer cette longue descente, et en coulisses, Dieu a choisi David pour que lui commence à être élevé. Et là aussi, ce sera tout un processus, mais Dieu est à l'œuvre derrière ce qui frappe le regard. Alors que les serviteurs sont tout à fait convaincus d'être des bons conseillers, ils pensent être au contrôle, et d'autant plus Saül s'imagine être au contrôle, s'imagine encore être roi, c'est lui-même qui va faire venir David dans son palais, c'est lui-même qui va faire venir son successeur pour venir trouver une place dans le palais. En coulisses, Dieu est en train d'exercer son jugement à un niveau plus profond, où il est en train de renverser la situation. La scène est profondément ironique. Celui qui se croit plein de pouvoir, celui qui se perçoit comme le roi, est en fait devenu une sorte de marionnette dans les mains de Dieu pour faire en sorte que son successeur vienne et qu'il soit jugé de cette manière-là. Et je crois que pour nous, on peut déjà repérer dans notre histoire le fait que les choses ne sont pas toujours exactement comme nous les percevons, qu'il y a parfois ce qui frappe le regard et qu'il y a bien souvent Dieu qui est en train d'agir, non pas de manière manifeste, parfois Dieu choisit d'agir de manière grandiose et visible, mais bien souvent il agit en coulisses et il agit au-delà de ce que nous pouvons percevoir. Nous pouvons avoir des regards sur les gens, comme ça a été dit la semaine dernière, être marqué par ce qui frappe le regard, mais Dieu lui est en train de faire des choses bien plus en profondeur et avec des critères qui ne sont bien souvent pas les nôtres. Je suis frappé de voir dans l'histoire de ceux qui font souvent la une des journaux, qui marquent l'histoire, ceux qui sont retenus comme ayant été des grands hommes, des grandes femmes, des figures. Et lorsqu'on découvre un petit peu quel était leur quotidien, quelle était leur vie, on découvre bien souvent que c'était surtout le chaos qui caractérisait leur quotidien. C'était surtout la souffrance et une forme de désordre à un niveau assez profond. Alors que les gens les regardaient comme au sommet, en fait, les réalités étaient beaucoup plus complexes derrière. Et à l'inverse, on peut avoir un regard, percevoir certaines personnes, malheureusement, sans leur attribuer une grande valeur, parfois en les voyant comme insignifiants, alors que Dieu, au contraire, voit des choses qui vont bien plus profond que nous, ce que nous pouvons percevoir. Je crois notamment que c'est le cas dans toutes les églises, je dirais, où il y a toujours des personnes qui ont une vie de prière particulière, une vie de prière qui fait avancer l'Église, une vie de prière qui a des effets puissants, réels, mais c'est souvent le ministère qui est le moins visible, parce que par définition, c'est souvent le ministère qui se passe dans chez soi, dans sa chambre, dans son lieu de prière. Et là, nous devons être attentifs sur notre incapacité à bien percevoir les choses. Bien souvent, nous croyons que telle ou telle personne est roi alors que Dieu en a déjà décidé autrement, et nous percevons telle ou telle personne comme un berger alors que Dieu l'a déjà oint comme roi. Nous devons être attentifs sur le fait que lorsque Dieu regarde au cœur, c'est à double tranchant. Pour Saül, le fait que Dieu regarde au cœur, c'est la base de sa condamnation. C'est une mise en garde pour chacun, dire que Saül était vu par tous comme élevé, comme en bonne place, comme honoré par Dieu, alors qu'en coulisses, parce que Dieu regardait son cœur, il en était tout autrement. Et à l'inverse, David, qui lui était méprisé de tous, et on le verra encore plus avec le chapitre suivant, David, qui était méprisé de tous, était en fait élevé par Dieu, parce que Dieu regardait à son cœur. Alors, lorsque nous disons que Dieu regarde au cœur, je crois que nous devons entendre ces deux facettes de cette même parole. Lorsque Dieu regarde nos cœurs, c'est à la fois un encouragement, parce que Dieu regarde fidèlement et prend soin de ceux qui sont attachés à lui, mais c'est aussi une mise en garde toutes les fois où notre cœur n'est pas fidèlement attaché à lui. Et justement, qu'est-ce qui a suscité ce tournant? Qu'est-ce qui fait qu'on est passé de Saül à David? Pourquoi Dieu a-t-il tant distingué entre Saül et David, entre celui qu'il juge et celui qu'il décide d'élever? Et on y a déjà fait allusion tout à l'heure, mais on voit que pour Saül, quelque chose a changé dans son cœur, dans sa relation avec Dieu. Et je voudrais vous relire un peu plus au chapitre 15, le jugement que Samuel apporte de la part de Dieu. Chapitre 15, à partir du verset 22, donc on est après que Saül ait désobéi à l'ordre de détruire entièrement le butin après une bataille. Et Samuel vient annoncer le jugement à Saül. Chapitre 15, verset 22. Samuel dit alors, « Les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres ? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers, car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination, et la désobéissance est aussi grave que le péché d'idolâtrie. Puisque tu as rejeté les ordres de l'Éternel, lui aussi te rejette et te retire la royauté. » Alors, Saül répondit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et tes instructions. Parce que j'ai eu peur de mécontenter mes soldats et j'ai cédé à leurs demandes. À présent, je te prie, pardonne ma faute et reviens avec moi pour que je me prosterne devant l'Éternel. » « Non, répliqua Samuel, je n'irai pas avec toi, car tu as rejeté les ordres de l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel te rejette aussi et te retire la royauté sur Israël. » On voit qu'il y a eu un changement profond dans la vie de Saül. On voit que dans sa peur de mécontenter ses soldats, et d'une certaine manière c'était déjà la source de sa désobéissance au chapitre 13, il n'est plus en fait au service de Dieu, il est au service de sa propre royauté. Il est devenu obnubilé par le maintien de son statut, le maintien de son rôle, le maintien de la manière dont il est vu par les autres. Et parce qu'il est d'abord attaché à sa royauté plutôt qu'à Dieu, alors il commence à se permettre de désobéir à Dieu pour maintenir son statut. Et c'est ce qui frappe à l'inverse avec David. Dans ce sens-là, sa situation est absolument opposée. David est d'abord attaché à Dieu. Et parce qu'il est d'abord attaché à Dieu, il peut se permettre d'être un simple serviteur. C'est au cœur de son attachement à Dieu qu'il peut accepter de continuer, malgré le fait qu'il a déjà été loin, de continuer à être un simple berger, d'accepter de jouer de la lyre pour Saül, d'être son porteur d'armes. On verra ensuite de venir et d'être simplement là comme pour apporter le ravitaillement en nourriture pour ses frères et pour le peuple. Et c'est dans ce sens-là qu'il peut le faire aussi dans des conditions difficiles. C'est parce qu'il est d'abord attaché à Dieu. C'est parce qu'il veut d'abord plaire à Dieu qu'il peut être ce serviteur, ce simple serviteur. Il accepte d'être vu comme insignifiant par les autres parce qu'il se sait vu comme étant attaché à Dieu par Dieu lui-même. Et c'est cette profonde différence que nous voyons dans cette scène. Pour Saül, Dieu est à son service pour assurer sa royauté. Pour David, il est d'abord au service de Dieu. Et la royauté n'est en fait qu'une mission que Dieu est en train de lui donner, un rôle que Dieu lui donne dans l'histoire d'Israël. Mais ce qui est premier pour lui, c'est son attachement à Dieu. Et là aussi, nous avons un enseignement qui est tout à fait riche, que dans la Bible, dans l'histoire d'Israël et dans toute l'histoire des êtres humains avec Dieu, il n'y a qu'une seule forme de royauté que Dieu agrée. Il n'y a qu'une seule manière de plaire à Dieu lorsqu'il y a une manière d'être roi ou de régner. C'est d'être un roi serviteur. Saül est condamné parce qu'il règne comme un autocrate, comme quelqu'un qui règne pour lui-même. David est mis en avant parce que il se prépare à régner et il n'est pas condamné pour sa préparation au règne parce que Dieu l'a oint, mais c'est en tant que serviteur qu'il se prépare à régner. Et là aussi pour nous, si nous voulons pouvoir servir Dieu, c'est uniquement en tant que serviteur de Dieu, attaché à Dieu, concentré et omnubilé par le regard de Dieu sur notre vie et non pas sur notre réputation, ce que ça peut impliquer. C'est parfois en trompe-l'œil, lorsque nous sommes au service des autres, nous sommes vus comme étant des serviteurs, nous sommes là prêts à se donner pour les autres, mais parfois ça peut être les situations les plus terribles si ce n'est pas lié à notre attachement et à notre service pour Dieu. Sans vouloir trop généraliser, mais c'est une discussion qu'on a parfois avec Barbara qui finit ses études pour être éducatrice spécialisée. C'est inquiétant de voir le nombre de personnes qui se consacrent au travail social, à aider les gens, et dans ce sens-là, n'allez pas entendre autre chose que c'est une bonne chose de se consacrer à aider les gens. Mais parfois, c'est surtout lié à ses propres problèmes, à ses propres besoins d'être aidé soi-même, et ça peut créer des situations tout à fait difficiles lorsqu'il y a un mélange entre l'aide que nous voulons apporter et ce que nous cherchons à construire dans notre propre identité lorsque nous sommes au service, où nous voulons avoir cette gratitude de ceux que nous servons, nous voulons être vus comme ceux qui sont généreux et qui sont là à se donner pour les autres, plutôt qu'en fait à être vraiment en train de servir. Dans ceux qui consacrent beaucoup d'énergie pour les autres, le risque de devenir aigri et de dire « mais avec tout ce que je fais pour lui, avec tout ce que je fais pour elle, je mériterais ça, je devrais être perçu comme ça, etc. etc. » Et là, il y a une mise en garde pour nous en tant que chrétiens, de dire « lorsque nous servons, ce n'est pas pour pouvoir dire ensuite « avec tout ce que j'ai fait pour, avec tout ce que j'ai fait pour », mais c'est de dire simplement « j'ai servi parce que je suis attaché à Dieu ». Dans mon dévouement pour Dieu, je suis prêt ensuite à vivre pour les autres, que ce soit par un rôle gratifiant ou pas, que ce soit dans la lumière ou dans l'ombre. Lorsque nous servons Dieu, que ce soit dans notre travail, à la maison, à l'église, ça doit rester un service pour Dieu. Ce n'est pas simplement une manière d'aider les gens pour se sentir bien, mais ça doit émaner de notre attachement à Dieu, du regard que Dieu porte sur notre vie, la manière dont il voit notre cœur. Et c'est à titre d'exemple le cas particulièrement lorsque nous sommes appelés à servir dans l'Église. Lorsque nous faisons des annonces à la fin du culte en disant « il y a des besoins pour la vidéoprojection, il y a des besoins pour tel ou tel autre service ». L'appel n'est pas « s'il vous plaît, venez rendre service à l'Église du Tabernacle ». Et encore moins « s'il vous plaît, venez rendre service au pasteur ». L'appel, c'est « vous avez maintenant l'occasion de pouvoir servir Dieu, que ce soit à la vidéoprojection, que ce soit à l'enfance, que ce soit dans les travaux, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans votre famille, que ce soit à la diaconie, dans tous ces aspects. Ce n'est pas simplement rendre service parce qu'il y a un besoin et il faut bien que quelqu'un le fasse. Ce sont des opportunités d'être au service de Dieu, concrètement en étant au service de l'Église, des gens, de notre famille, de nos collègues, etc. » Et bien sûr, derrière ce modèle de David qui est prêt à servir en tant que roi, tout en le faisant au travers de son rôle de musicien, de berger, de porteur de nourriture, il nous a annoncé un autre roi. Il nous a annoncé le roi serviteur, comme nous l'avons chanté il y a un instant. C'est comme ça que Paul nous décrit le ministère de Jésus sur terre, dans l'épître aux Philippiens au chapitre 2, lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition de serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort de la croix. Bien plus que David, Jésus se savait roi. Il avait passé l'éternité dans la gloire céleste. Il se savait non seulement roi d'Israël, mais roi de la terre entière, de la création. Et il accepte, dans sa soumission au Père, à devenir un simple serviteur, de prendre la condition d'un serviteur avec toute l'humilité et toutes les humiliations que ça représentait dans son ministère terrestre. C'est en tant que serviteur du Père qu'il est devenu le serviteur de tous. Et lui, bien plus que David, nous présente de manière absolue ce modèle de roi serviteur qui est prêt à s'humilier, à souffrir, à payer le prix pour être au service de Dieu et au travers et dans son service pour Dieu, de pouvoir servir toute l'humanité. Jésus n'est pas venu simplement pour apaiser un homme en jouant de la musique. Il est venu donner la paix à toute l'humanité. Il rend accessible cette réconciliation avec Dieu, cette paix avec Dieu pour toute l'humanité. Et en cela, son ministère est absolument glorieux, tout en étant un ministère de serviteur, d'humilité, à la fois au service de Dieu et au service de l'humanité. Et là encore, le rôle de Jésus n'est pas simplement un modèle que nous pourrions garder à distance. C'est un sujet de louange, c'est un sujet d'émerveillement, mais ce n'est pas quelque chose que nous sommes amenés à garder à distance de nous. Jésus nous invite à marcher à sa suite sur cette voie. C'est en tant que peuple de Dieu que nous sommes appelés, d'une certaine manière, à régner, mais à régner en tant que serviteur. Systématiquement, et c'est une scène qui revient régulièrement dans la relation entre Jésus et ses disciples, eux s'imaginent que parce qu'ils sont proches du Messie, ils vont pouvoir avoir un poste d'autorité, ils vont pouvoir régner d'une manière ou d'une autre. Et ils commencent à préparer leur place, ils commencent à préparer un classement pour savoir est-ce qu'ils auront la première place, la seconde place, etc. Et de manière répétée, Jésus est obligé de leur rappeler que dans le royaume de Dieu, oui, ils vont régner, mais ils vont régner en tant que serviteurs. Et ça change absolument la manière dont ils vont régner. C'est la manière la plus frappante qu'il va leur enseigner ça en finissant par leur laver les pieds. Jésus, lui qui est le maître et qui s'assume en tant que tel, il ne se cache pas derrière son rôle de roi, mais il choisit de prendre la position de l'esclave et de laver les pieds de ses disciples. Et après l'avoir fait, il leur transmet ce modèle en leur disant « C'est à votre tour maintenant. » Je vous lis dans l'évangile de Jean au chapitre 13. « Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous le fassiez comme je vous ai fait. » Nous recevons ce modèle du roi serviteur. Il n'y a rien de honteux ou de misérabiliste à être chrétien. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes appelés amis de Dieu. Mais ce statut glorieux ne nous amène pas à voir les gens de haut et à manifester notre statut et vouloir préserver notre statut. Au contraire, lorsque nous régnons comme Jésus, c'est-à-dire en tant que serviteur, en toute humilité, là pour apaiser et apporter la paix et la réconciliation autour de nous. Et dans ce sens-là, ça doit nous libérer du regard des autres. Nous ne sommes pas là pour nous assurer d'être bien vus, nous ne sommes pas là pour nous assurer que toute l'aide que nous avons apportée a été bien notée et que nous allons être gratifiés publiquement pour l'aide que nous apportons. Mais l'important, c'est le regard de Dieu sur notre vie. Nous sommes à son service. Si nous servons les hommes diverses manières, ultimement, c'est lui que nous servons. Et quel est son regard? Quel regard porte-t-il sur notre cœur, sur notre vie? Est-ce qu'il nous voit comme pleinement attachés à lui, prêts à accepter de le servir, même lorsque nous n'avons pas envie, même quand ce n'est pas gratifiant, même quand ça doit être dans l'ombre? Ou est-ce que nous cherchons d'abord à assurer notre statut, à assurer que le regard des autres sur notre vie nous plaît? C'est un défi, je crois, qui nous concerne tous et que nous devons tous entendre, de savoir mais à qui nous voulons vraiment plaire. Et si nous voulons pleinement plaire à Dieu, sommes-nous prêts à être, à rester dans l'ombre, à servir même lorsque ça ne nous plaît pas? Donc lorsqu'on revient sur cette scène que nous avons lue tout à fait étonnante, on voit que dans chacune des scènes de nos vies, il peut y avoir ces doubles regards. On peut percevoir les choses comme les serviteurs l'ont vu. Ils voyaient leur roi qui avait une difficulté, il fallait simplement l'aider. Mais on peut aussi voir avec le regard de Dieu qui voyait que d'une part, Saül n'était plus roi, il n'était plus qu'un imposteur, mais qu'il y avait un vrai roi qui montait et que ce vrai roi était élevé par Dieu parce qu'il était attaché à Dieu. Que derrière les apparences, il y avait quelqu'un qui était prêt à servir malgré son statut de roi, malgré le fait que Dieu l'avait choisi pour régner sur tout un peuple. Alors nous ne devons pas avoir honte de notre statut d'enfant de Dieu, d'ami de Dieu, mais réaliser que nous avons une mission importante. Nous sommes appelés à régner, mais à la manière de notre roi, comme serviteur, prêt à payer le prix pour apporter la paix et la réconciliation, être là pour témoigner de l'amour de Dieu là où nous sommes, à la manière dont Dieu témoigne de son amour au travers de son Fils Jésus. Je vais terminer par la prière. Seigneur, tu vois nos cœurs, tu vois que bien souvent nous avons des cœurs partagés. Nous t'aimons, nous voulons te servir, mais nous voulons aussi assurer notre image devant les autres. Nous voulons à la fois être tes enfants, mais protéger notre statut, qui nous sommes, notre identité. Seigneur, permets-nous de suivre ton exemple et d'accepter cette humiliation parfois de te servir au-delà de tout ce qui peut être perçu. Les hommes voient une réalité telle qu'ils la perçoivent, mais bien souvent ce n'est qu'une parodie par rapport à ce qui est la réalité telle que toi tu la vois. Seigneur, permets-nous d'être attachés à toi pour être pleinement concentrés sur ce que toi tu vois, sur ta perception de la réalité. Que même lorsque nous devons être dans l'ombre ou incompris, ou Seigneur, nous voulons être tes enfants, pleinement attachés à toi, et que toi tu puisses prendre soin de nous. Nous savons que tu es un père fidèle qui n'abandonne pas tes enfants, et nous savons que en te servant dans l'humilité sur cette terre, nous régnerons avec toi pour l'éternité. Merci pour la gloire de ton règne. Et merci parce que nous pourrons partager ce règne pour l'éternité. Permets-nous d'être aujourd'hui sur cette terre des serviteurs fidèles qui n'ont qu'un seul objectif, te servir et te rendre gloire. Amen.